alors donc nous allons clore, puisque clore il faudra cet après-midi, mais nous voulions clore avec l'espagnol, ou plutôt l'espagnol au Brésil, avec donc Irle Machado qui nous vient de Uberlândia, Brésil, et qui est maintenant une habituée de notre université Ilcrini. Et alors, je ne sais pas, tu as envoyé ta biographie ou pas ?
Quelque chose.
Oui.
C'est impossible de mettre tout.
Non, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais je veux dire à partir de ce que tu dis toi. Alors, Irle Machado donc, est professeur de théâtre et de littérature à l'Université fédérale d'Uberlândia, Brésil, directrice de recherche et qui dirige aussi le programme de doctorat en théorie littéraire et art, qui associe son activité de professeur, son travail artistique et son travail de metteur en scène, puisqu'elle est surtout connue beaucoup, beaucoup pour son travail de metteur en scène des pièces de Lorca. Donc, depuis 1986, Irle a mis en scène un certain nombre de pièces de théâtre, dont Hermanos de sang, en général avec les étudiants de l'université. Quelques photos, je les avais données pour faire l'exposition à la bibliothèque universitaire, qui maintenant est démontée. Et donc, elle a aussi mis en scène certains opéras, comme La Cavaliera Rusticana ou La Bota del Diablo. Enfin, c'est-à-dire La Bota do Diablo. Elle est devenue en 2008 directrice de la culture de l'université, fonction qu'elle occupa jusqu'en 2012. Et puis donc elle a publié un certain nombre d'ouvrages et coordonne un groupe de recherche sur la poésie et la dramaturgie de Federico García Lorca. Alors cher Irle, je te donne la parole et puis tu vas nous confirmer ton titre.
Ah oui. Bon, avant de confirmer mon titre...
Attends, approche le micro parce que t'as une grande voix au théâtre et une petite voix pour exposer, bizarrement.
Oui, c'est comme ça. Bon, avant de donner mon titre définitif, je vais remercier énormément aux organisateurs de ce colloque. Et je vais aussi dire que c'est le premier colloque que je n'ai pas dormi de l'Assemblée.
Ouais, j'ai pas regardé si tu dormais dans l'assemblée, hein.
Non, parce que vraiment, toute la quantité de communications qu'on a eu le plaisir d'écouter, je ne me suis pas du tout ennuyée. J'étais tranquille, j'ai bien profité. Et je pense, et je peux dire aux organisateurs, que ça a été une réussite. Et je vous félicite.
Merci beaucoup, mais je ne savais pas que tu dormais dans les autres colloques.
Ah, je crois que tout le monde dort, d'une façon. Bon, je remercie Jocelyne, je remercie la SUS, Pilar, Sonia et les filles qui font...
Angélique et
Angélique
Marlène.
Aussi, qui font ce travail de soutenance de tout ce qu'on fait. Bon, je vais parler sur le cas, c'est toujours difficile parce qu'il a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup. Et quand on pense que finalement on a épuisé le sujet, il y a toujours quelque chose qui apparaît encore. Le titre de ma communication, c'est Souvenir prématuré de tragédie, entre mémoire des sens et inquiétude mystique. Parler que c'est un souvenir prématuré, ça paraît déjà une antinomie. On ne peut pas penser à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais ce que je vais parler, c'est justement de tous ces souvenirs que Lorca a, qu'il garde depuis son enfance et qu'il va utiliser dans son écriture, et tout ce qui vient déjà chargé d'une dimension tragique. Alors, je préfère lire, comme ça, je ne serai pas embêtée avec mon français. Lorca, il y a un moment qu'il va dire « Toda mi infancia es pueblo, pastores, campos, cielo, soledad, sencillez en suma. Son detalles auténticos que a mucha gente le parecen raros, porque es raro también acercarse a la vida con esta actitud tan simple y tan poco practicada, ver y oír. Yo tengo un gran archivo en los recuerdos de mi niñez de oír hablar a la gente, es la memoria poética y a ella me atengo. La nostalgia que trae y lleva la memoria viaja allí donde el olvido no logra borrar los recuerdos más simbólicos e íntimos. Avec son regard enfantin, il observe enchanté les chemins de fourmis. Il surveille les cocons des papillons en attendant leur envol magique. Et de temps en temps, au milieu de cette nature dont il est très proche, il écoute les peupliers qui, emballés par les vents, murmurent son nom. Vite, la mémoire enregistre la sensation de plénitude et d'appartenance à cette nature dont les images et les sons que tous ses sens conservent remplissent son univers. Pour le jeune poète, la période qui correspond aux années 1916 et 1921 se caractérise par une production fébrile, une époque de questionnements philosophiques, d'inquiétudes métaphysiques et de floraison d'images qui allait produire une dramaturgie dont le lyrisme prédomine. Tout en parlant de l'écriture de Federico de l'époque, Francisco Garcia Lorca déclare que son frère écrivait avec avidité, ajoutant la couleur, la musique, plastifiant les sensations et utilisant les représentations personnelles qui pouvaient apparaître comme la simple expérimentation d'un néophyte, mais qui, tout au long des étapes postérieures, allaient se réaffirmer comme des caractéristiques de son œuvre et constituer les bases de la production qui a suivi bien dans la poésie que dans le théâtre. C'est la phase durant laquelle seront activées les mémoires d'enfance du jeune poète, dont il se servira pour écrire une importante partie de sa poésie. Très tôt, il semble éprouver les sentiments tragiques qui accompagnent la vie de l'homme. Il s'aperçoit que c'est dans ce monde qu'il va trouver les valeurs qui donneront un sens à sa vie. La nature du poète exige la solitude, et ses amis feront référence au moment durant lequel Federico, aussi bien dans sa jeunesse que dans sa vie adulte, semblait être absorbé et s'éloignait de la réalité de l'instant présent. Alors, je reviens un peu à ce que Jocelyne avait parlé sur la mélancolie. Peut-être c'était la mélancolie. Peut-être les caractères mélancoliques appartenaient à Federico depuis son enfance, depuis sa naissance. Où va Federico? Quel voyage antérieur réalise-t-il? Reviendra-t-il à son passé d'enfant, à la mémoire de ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vu et vécu dans son enfance? Parce que finalement, quand sa mémoire affleure, elle se transforme en conscience créatrice et lui fait écrire. La fenêtre de mon école a un rideau d'étoiles. Quelle imagination possédait ce jeune garçon pour transformer en un rideau d'étoiles les souvenirs d'un vitre, peut-être pleine de gouttelettes cristallines, un jour de pluie? Nous n'y saurons jamais. Va-t-il ainsi se réfugier dans les souvenirs de son premier amour? Dans la nostalgie de ses portraits, portraits sans nom qu'il regardait curieux et dont la seule explication donnée par sa famille était que c'était une amie de grand-mère morte pour avoir tant souffert? Un portrait qui a laissé au poète la sensation d'avoir senti un amour pur et vrai. Un amour qui était le parfum sacré de mon cœur d'enfant, le véritable amour sans le désir de la chair. Cette mémoire, pleine de sensations vivantes et si présentes, ne lui permettra pas d'oublier l'image de sa petite amie blonde aux tresses de fête, courant nue dans les jardins de sa pauvre demeure, pendant que ses uniques vêtements s'échangent sur la corde à linge, les jours où il lui était interdit d'aller jouer avec elle. Ce fut un des premiers textes du poète écrit en 1916. Ses souvenirs emplissaient le poète de tristesse. Dans son humanité, manifeste depuis son enfance, il ne pouvait pas s'empêcher de souffrir pour les plus défavorisés. Et il racontait touchée par la misère de cette maison. C'est pourquoi, quand je rentrais chez moi et que je regardais l'armoire chargée de linge propre et parfumé, j'éprouvais une grande inquiétude et un froid pesant au cœur. Il ajoutait aussi, indigné par la détresse de ces gens, personne n'ose demander ce dont il a besoin. Personne n'ose réclamer du pain par dignité et par manque d'audace. Je l'affirme, moi qui j'ai grandi au milieu de ces vies de douleur, je proteste contre cet abandon de l'ouvrier des champs. J'en souffre et mon âme s'emplit de peine. L'odeur des vêtements bien rangés dans son armoire contraste avec la vision de la pauvreté. Enfant gâté par la bonne chance qu'il a vu naître au sein d'une famille aisée, il n'était pas insensible au dénuement des autres. Les premières années de sa vie se sont passées au Puente Vaqueras, une région fertile, au milieu des bois enchantés ou des arbres fruitiers, donne en abondance des pommes, des cerises, des poires. J'arrive pas.
Attends, je vais te le faire.
Et il restera seul à flâner et à jouer au milieu du jardin pendant des journées. C'est bon. Comme compagnie, il aura la présence de Carmen Ramos, la Ramico, sa nourrice, avec qui il jouera à la messe et fera son théâtre de marionnettes. Au tomber de la nuit, il dormira dans les bras du compadre Pastor, son parent, les bergers, écoutant les histoires fantastiques des loups dans les montagnes de l'Alpujarra. Ces personnages, il les décrira plus tard dans son livre « Impressions et paysages » comme quelqu'un dont les visages avaient une grande douceur et une bonté infinie. Les bergers, devenus son héros, jouissaient de l'affection du jeune Federico qui dira « Lorsqu'il parlait, tout le monde dans la cuisine faisait silence et l'on n'entendait plus que les bruits de respiration. Il lisait dans les étoiles les pluies et les neiges futures. » Si le silence s'oppose au bruit de respiration des uns et des autres, l'admiration que les garçons vouaient à son parent se complaisait dans cette sensation d'amour et de sagesse que l'humble personnage dégageait. Fasciné par les dons de cet homme qui lui semblait exceptionnel, le poète s'exclama « Mon parent, les bergères, plein d'amour, de dignité et de sagesse. » Très tôt, le jeune Federico, porteur d'une grande sensibilité, trouvera les racines de son inspiration dans l'observation acérée de la réalité qui l'entoure, dans le travail des ouvriers agricoles, dans la marche des gitans entre les chemins d'osier, aussi bien que dans les histoires qu'il écoutera au coin du feu dans la cuisine de sa maison. Le poète retiendra dans ses mémoires d'enfance l'image de ce peuple fait d'odeur et de sang, aussi bien que l'écho permanent de l'eau et du vent dont il se servira comme élan créatif. Sa poésie, pleine de légendes, de romans, de cultures populaires, d'intériorisation lyrique, devient complexe et ambiguë. Dans son théâtre, il se multiplie dans des personnages qui, à l'intérieur de la tragédie, cherchent une solution qui n'existe pas. Son monde lyrique et dramatique, habité par son duende tragique, se referme dans l'ambiguïté de la mort, même si les duendes cherchent la racine de la vie. Il ne faut pas oublier cependant que les duendes lorquiens est création pure et représentation d'une force sacrée. Tout en étant entouré de tous ceux qui admiraient déjà son talent naissant et son charisme naturel, Federico est resté un jeune solitaire. Cette solitude qui lui a permis d'aiguiser sa sensibilité et sa mémoire. Une mémoire qui s'avère extension de tous ses sens et pleine de sentiments et d'émotions. Comme dit si bien Bachelard, c'est dans la solitude que l'être des passions prépare son explosion et sa réalisation. C'est la mémoire qui va lui donner envie de retourner à son enfance, comme dans les petits poèmes « Ballade de la placette », poème qui n'est ni plus ni moins qu'une prière. Mon cœur de soie est plein de sang et de lumière, des carillons perdus, des lits blancs et d'abeilles. Je m'en irai bien loin, au-delà des montagnes et au-delà des mers, jusqu'auprès des étoiles, pour demander au Christ, mon maître, qu'il me rende mon vieille âme d'enfant, nourrie de légendes, et mon bonnet à plumes et mon sabre de bois. Les poètes laissent parler sa sensitivité dans une atmosphère faite de lumière et qu'il a construit pour créer son œuvre. Dans son récit « Mon école », il commence à décrire son réveil. Il révèle la douceur de ses moments ainsi que les aspects psychophysiques que sa mémoire a enregistrés. À peine le soleil était-il levé que j'entendais dans ma maison la ferment du travail et les pas sonores des valets dans la cour. À moitié endormi, je percevais le bêlement des brebis et le giclement tiède du lait des vaches dans les seaux. Parfois, un fonfou des jupes, très doux, c'était ma mère qui veillait amoureusement sur notre sommeil. Puis, mon père entrait dans la chambre et il nous embrassait avec tendresse. Tout doucement et en retenant son souffle, comme s'il ne voulait pas nous éveiller. Mon petit frère et mes petites sœurs s'agitaient et lui, tout en nous regardant passionnément, sortait sans faire du bruit. Je percevais tout cela à moitié endormi, dans la somnolence où l'on est les matins, et je riais souvent du visage de mon père qui nous regardait avec amour. Physiques sont les sensations que les poètes nous signalent. Les bruits des pas, les bêlements des brebis, les froissements des jupes de sa mère, les lèvres des vaches dans les seaux et dont les poètes nous font sentir la saveur et le parfum. Mais il y a aussi l'émotion et la tendresse de son père, gardée à jamais dans son cœur de garçon. Les poètes décrivent non seulement ce qu'ils voient, mais ce qu'ils ressentent avec tous ses sens. Parfois des sensations enregistrées dans sa propre peau. Doux peuplier, te voici tout doré. Hier, tu étais vert d'un vert fou d'oiseaux glorieux. Aujourd'hui, tu gis sous le ciel de doute, comme moi sous le ciel de mon esprit pourpre. Les parfums captifs de ton écorce viendront vers mon cœur d'amant. Les doux peupliers se transforment devant ses yeux. Doré en automne, vert au printemps, gelé en hiver. Les poètes s'identifient à lui et gardent les parfums de cette écorce protectrice dans son cœur amoureux. Les poètes est comme l'arbre, doré sous le ciel de son esprit pourpre. Très tôt, la force tellurique de sa propre nature lui fera comprendre les différences entre les gens. Son œuvre allait prendre un caractère populaire, associé à sa façon profonde de sentir le peuple avec ses conflits et ses aspirations. Il possédait une forte conscience de la réalité sociale et culturelle de l'Espagne, une réalité complexe qu'il a sentie et incorporée à son œuvre. Pour son frère Francisco, Federico a été sans doute parmi les écrivains de la période les poètes les plus sensibles aux problèmes sociaux, car il avait senti dès son jeune âge les manques de justice générés par les inégalités. Ces faits expliquent la compréhension du poète des problèmes directement liés aux racines de la peur et à la terreur irrationnelle de l'être humain devant les mystères de la vie et de la mort. Depuis son enfance, Federico a été mis devant les mystères de la mort, celle de son parent et de son frère. Il a vite compris que les temps éternels est celui de la mort, mais éternel sera aussi le souvenir des événements de son enfance. Dans son épitaphe pour un oiseau, Federico remémore la perte de son petit frère. Adieu, bel oiseau vert. Tu dois être dans les Landes. Visite de ma part mon frère Luisinho sur la prairie avec les nourrissons. Adieu, bel oiseau vert, si grand et si petit, admirable chimère du limon et du narcisse. Les premières questions posées sur la mort semblent surgir à partir d'un moment d'inquiétude enfantine. Il raconte une de ses conversations avec sa petite amie blonde. La fillette lui expliquait que la mort était le résultat de la faute commise par Adam et Ève, quand ceux-ci ont désobéi à son ange et ont mangé la pomme interdite. Indignés, les garçons se demandaient « Pourquoi ont-ils mangé cette pomme ?» Et naturellement, sans rien comprendre, son âme et son innocence s'en sont pris à Dieu. Dans les souvenirs du poète, il raconte « Durant cet après-midi, j'ai senti une tristesse infinie et une envie folle de vivre pour toujours. J'ai beaucoup pensé à la mort et à l'horreur d'être enterré et plein de vers. Cet après-midi, mon cœur d'enfant a maudit Dieu car il pensait attristé. Qu'importe Dieu qu'on ait mangé une pomme ou pas ?» Plus tard, le poète deviendra un des grands hétérodoxes espagnols. Une hétérodoxie nourrie par le catholicisme appris dans son enfance, un catholicisme déformé. Federico possédait une âme religieuse profonde. Cette âme sensible l'empêchera de rester impassible devant la corruption et l'hypocrisie qui trahit la vraie voie de la pensée religieuse chrétienne. Encore jeune, il écrira ses mystiques, où il dénonce l'impossibilité de communication avec ses dieux incertains, aussi, mais aussi l'institution du pouvoir matériel que l'Église représente et qui semble contraire à la morale prêchée. Hier, on a vu dans la conférence de M. Casanova l'importance que l'Église a prise pendant la guerre civile espagnole. Pendant que Lorca produisait Impressions y paisajes et Libres de poèmes dans les années 1916 et 1917, il faisait ses premiers pas dans la dramaturgie. Son article Fantasia Symbolica, publié en février de 1917, annonce le futur dramaturge. Ensuite, il écrit 4 pièces qui sont restées inachevées: Comédie idéale, Théâtre des almas, paysages d'une vie spirituelle et Dios, el mal y el hombre. Ces pièces font à peine 20 pages manuscrites, mais elles présentent quelques caractéristiques structurelles et thématiques similaires. Des phrases longues dans les dialogues, des didascalies amples dont les contenus suggèrent la recherche d'une synthèse entre musique, littérature et une esthétique visuelle, tout comme les modèles soutenus par les courants symbolistes. Dans la description du décor, il y a une multiplicité de couleurs avec la richesse d'un spectre prismatique de la nacre lisée de coquillages jusqu'à l'éventail de tapis floraux, des fruits, des pierres précieuses, dans l'espace mythique des forêts et des plaines. Cependant, les références musicales vont au-delà des didascalies et atteignent les dialogues aussi bien que les répliques du cœur. Ce qui est intéressant quand on lit ces œuvres qu'il a fait dans cette période de sa vie, c'est de voir déjà les dramaturges qui est en train de naître. Et c'est fort quand on comprend par exemple cet homme de théâtre qu'il va devenir et qu'il va déjà comme metteur en scène conduire cette mise en scène. Il n'est pas fini, ces œuvres sont des œuvres de petites œuvres qui font à peine 20 pages, mais il y a déjà une sensibilité de metteur en scène très fort dans son travail. Bon, les textes écrits en 1917 reflètent les lectures du jeune poète qui, à cette époque, était influencé par l'hindouisme et par bien d'autres mystiques espagnols. Comédie idéale est une petite pièce en des tableaux qui met en scène des personnages allégoriques censés représenter l'âme humaine, et donc le but principal est de poser une des questions qui ont le plus hanté la jeunesse du poète de Granada. Où se trouve la limite entre les biens et les mâles? Il y a un dialogue significatif entre des personnages où les premiers déclarent « Peu de gens comprennent notre âme. Nous voulons faire plaisir, mais presque toujours nous faisons souffrir. » C'est le même personnage qui dira « Il y a quelque chose de supérieur à nous. Je purifie ceux qui m'aiment parce que je leur donne la mort. » Pour les poètes, la mort est belle et effrayante. Une mort méprisée par les hommes qui ne comprennent pas son rôle d'artiste transformatrice. Les personnages sont bien les âmes humaines qui se déguisent en bien et en mal et affirment que tout est égal devant l'éternité. Il y a là une tentative de conciliation des contraires, la recherche d'une harmonie dans les antinomies. Les deux personnages sèment des émotions et des sentiments dans les esprits humains, sentiments qui peuvent les conduire à des états de conscience supérieurs ou à la perte de la raison. Au milieu du texte, une référence à Horus, le dieu égyptien mythique, semble vouloir nous dire que même l'œil de ce dieu ne peut pas discerner les mystères de la vie et de la mort. Dans le deuxième tableau, le cœur des satyres proclame les plaisirs de la chair et s'oppose au cœur des poètes qui aspirent à un idéal impossible. Pour la première fois, dans l'œuvre du jeune poète, tiraillé entre ce qu'il croyait être la vertu et le vice, s'y révèle les profonds déchirements qui les tourmentaient.
Je peut-être encore un peu, parce que je ne sais pas si vous entendez assez.
Oui,
oui. Parle un peu plus fort, peut-être.
Dans les manuscrits Théâtre des Almas, paysage d'une vie spirituelle, nous nous retrouvons encore face à des personnages allégoriques. Les prologues sont présentés selon les rubriques par un acteur habillé en noir au son du piano. Celui-ci semble bien un texte métathéâtral qui, depuis la première phrase, définit l'œuvre et met en relief la thématique sans s'occuper des aspects formels. Cette comédie, que vous pouvez appeler comme vous voulez, est un épisode spirituel, dit Lorcan. Le thème est justifié par l'inquiétude qui tous pressentent devant le mystère de la mort. Le personnage de l'homme dans un monologue expressif est celui qui questionne et s'inquiète de l'indifférence avec laquelle nous conduisons notre existence. Il affirme « Sur le cœur est tombée la pluie de l'indifférence. Personne ne pressent l'éternité. Il y a chez nous une essence d'âme inconnue qui nous fait souffrir et penser sans que l'on sache pourquoi. » Dans le développement de la pièce, d'autres questions d'ordre mystique vont surgir, mais c'est encore la mort, les fantômes qui hantent la pensée de Federico. Théâtre des Almas semble reprendre la thématique des comédies idéales. L'homme, que les didascalies décrivent comme pensif et sensuel, réunit en lui-même les deux mondes qui apparaissent dans le premier texte, les spirituels et les charnels. Le conformisme du personnage mis devant la dégradation de la mort est cimenté par la certitude d'une âme immortelle. Dans Dios, el mal y el hombre, la présence de la pensée de Unamuno est évidente, surtout en ce qui concerne l'attitude de méfiance par rapport au Dieu de l'Ancien Testament et à la recherche d'un Dieu véritable. Pour Unamuno, les sources et les critères les plus authentiques pour définir la vérité appartiennent à la volonté et à la vie. Dans son ouvrage « Mi religion y otros ensayos breves », le professeur de Salamanca disait « Ma religion est recherche de la vérité dans la vie et de la vie dans la vérité, tout en sachant que je ne les trouverai pas dans ma vie. Ma religion est une lutte incessante, infatigable avec les mystères. Ma religion est une lutte avec Dieu, depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. » Bien d'autres textes de la jeunesse de Lorca laissent transparaître ses préoccupations religieuses et ses inquiétudes déjà mystiques. Dans Impressions et paysages, Lorca décrit les monastères comme des endroits où l'amour que Dieu a ordonné aux hommes n'existe plus. Il enregistre la froideur et les manques d'amour entre les gens. Sur les moines, il affirme qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Tout en comparant les cloîtres à un tombeau, il constate « Quelle douloureuse angoisse révèle ces tombeaux où des hommes s'agitent comme des marionnettes dans un théâtre de tourments. » Et il demande « Quel sera donc ce Dieu qui cherche les chartreux ? Sûrement pas Jésus. » Pour les jeunes poètes, Christ est celui qui a appris la paix et les miels de la parole, comme il va l'écrire en 1921 dans son livre des poèmes. Les miels est la parole du Christ, l'or fondu de son amour, l'au-delà du nectar. Les miels est l'épopée de l'amour, la matérialité de l'infini, l'âme et les sangs plantifs des fleurs condensés à travers un autre esprit. Les idées d'Unamuno liées à un sens aigu de la justice sociale et au mécontentement des attitudes élitistes de l'Église catholique en Espagne ont fait que Lorca se soit vite identifié à la philosophie franciscaine et à la figure d'un Christ trahi par l'hypocrisie ecclésiastique et bourgeoise. Dans une de ces mystiques, on trouve un cri de révolte. L'Église est un spectre noir. Et quand il parle directement à Jésus, il dit « Tu as été oublié du vent socialiste. Tes doctrines d'amour sont recouvertes par l'hypocrisie. » Les poètes placés devant l'insondable mystère de l'univers, de la vie et de la mort, c'est que l'homme tragique ne peut pas vivre dans l'aveugle insensibilité de l'homme religieux ou matérialiste. La force d'un mythe est inexplicable. Dans l'œuvre de Lorca, nous trouvons d'innombrables références à sa propre mort. Les poètes s'identifiaient aux petits animaux, victimes innocentes, sacrifiées par la cruauté humaine. Dans son poème « Los encuentros de un caracol aventurero » de 1918, un groupe de fourmis frappe et tire une petite fourmi qui avait déclaré avoir vu les étoiles. Vision qui apparaît comme signe de l'acquisition d'une sensibilité transcendante. Thématique que le poète soutient dans une de ses mystiques de 1917. Il dira « Les hommes qui s'y promènent, les cœurs pleins d'amour pour un autre amour idéal, dans les champs, en regardant les énigmatiques étoiles impossibles, sont des extra-humains et ils attendront peut-être l'unique vérité. Infortunés parce qu'ils rêvent des étoiles, mais fortunés parce qu'ils s'approchent du céleste et mystique Jésus de Nazareth. » L'Andalousie, imprégnée de magie, évoque pour les jeunes créateurs les miracles du monde naturel, où les plantes, les animaux et les hommes naissent, se reproduisent et disparaissent dans une sereine indifférence. Les langages des sources, les arbres et les oiseaux révèlent au poète une vraie religion de la nature. L'auteur, des tempéraments passionnés et sensuels, éprouve les besoins paniques de s'effondrer dans les prodiges de la nature même, selon les volontés de l'instant. Dans la construction de sa production littéraire, Lorca a cherché ce qui est universel, sans oublier les particularités de l'histoire de son peuple. Il a plongé dans l'inconscient mythique plein de valeurs ancestrales et il a trouvé les racines esthétiques et thématiques de sa création à laquelle il a imprimé sa passion. Dans cet inconscient, la mort a une présence constante. Ainsi, la représentation de la mort chez Lorca cache la fantaisie d'une résurrection et de l'espoir. La mort est promesse de vie, et le théâtre devenu temple se transforme en autel de sacrifice. La conscience de la mort est ce qui hante l'imaginaire humain. On est étonné par l'aspect prémonitoire de la pièce « Lorca, 100 ans seront passés ». Lorca y indique avec précision les lieux et la date où il l'a considéré comme achevé. Granada, 19 août 1931. Et c'est exactement 5 ans, jour par jour, avant la date de son assassinat. Dans ce texte, on trouve également une phrase significative où le personnage de l'enfant mort dit « J'aime mieux dormir parmi les joncs de l'eau, je ne vais pas qu'on m'enterre. » Un autre personnage, dans une phrase qui peut paraître effrayante, annonce non seulement la mort prochaine du poète, mais aussi tout le climat de terreur qui va s'installer dans l'Espagne franquiste. Il dit « Il est un puits où, dans 4 ou 5 ans, nous tomberons tous. » Pouvait-il, telle tragique Cassandre, prévoir son propre destin et l'annoncer par les biais de la poésie? Dans plusieurs passages de ses poèmes, on trouve cette inexplicable et tragique prémonition. Les poèmes Aube, écrits en 1919, demandent « Que que ferais-je si tu gardes tes yeux morts à la lumière, si ma chair ne doit sentir la chaleur de tes regards? Selon le biographe, et nous savons tous, il a été assassiné en compagnie de 3 autres personnes. Alors, comment pouvons-nous ne pas nous sentir effrayés en lisant son petit poème Jardin de 1919 où il écrit « 4 chevaliers passent avec des glaives d'eau et la nuit est obscure ». De la même façon, son poème « Paysage » écrit en 1920 ne manque pas de nous étonner. Les étoiles éteintes emplissent de cendres la rivière, froide et verte. Au-delà du paysage, je vois en moi un trou profond comme la tombe. En chanson, les mois lyriques demandent à des palombes où se trouve sa sépulture. Des palombes sombres volent. L'une était le soleil, l'autre la lune. Petite voisine, où est ma sépulture? Dans mon plumage, dit le soleil, dans ma gorge, dit la lune. Et dans Fabula y Rueda de los Tres Amigos, le poète revient à la thématique de son assassinat et de son corps disparu et jamais retrouvé. Quand se sont effacées les formes pures sur les cris des marguerites, j'ai compris qu'ils m'avaient assassiné. Ils ont cherché dans les cafés, les cimetières et les églises, ouvert les tonneaux et les armoires, dépecé 3 squelettes pour arracher leurs dents en or. Ils ne m'ont pas trouvé. Ils ne m'ont pas trouvé. Non, ils ne m'ont pas trouvé. Mais on a su que la 6e lune s'était enfouie en amont du torrent et que la mer s'était soudain souvenue du nom de tous les noyés. La 6e lune. La lune de la passion, la lune de l'amour humain s'enfuit. Et la mer se souvient du nom de tous ses morts, un souvenir de tragédie. Comme disait bien Héraclite, les principes et la fin se réunissent dans la circonférence du cercle. De la même manière, les pouvoirs de la pensée allaient triompher sur les silences imposés par la dictature franquiste, tout en rachetant dans chaque poème, les mémoires de la vie et les passions du poète, animées toujours d'une dynamique essentiellement fragile. Merci.
Exposé qui met fin, qui met fin. Début et fin.